La collective. C'est une émission hebdomadaire. C'est à plusieurs. C'est ensemble. C'est local. C'est beaucoup d'ici, parfois de là-bas. C'est un mélange, la collective.
C'est des interviews, de l'actualité, des chroniques, du reportage, de la musique. C'est divers et c'est varié.
La collective, c'est ta voix.
C'est ma voix.
C'est nos voix. C'est une fois.
C'est de temps en temps. C'est plein de fois.
C'est tout de suite. Et c'est maintenant sur Radio Saint-Fé.
La collective.
Bonjour et bienvenue dans cette 33e émission de Ouvrons les frontières, l'émission de l'Esti de Valence, tous les premiers vendredis du mois à 18h sur Radio Méga 99.2. Aujourd'hui, c'est une émission particulière, car c'est une émission partagée avec Radio Saint-Ferréol, radio associative en Val-de-Drôme, 94.2, et dans les locaux de laquelle nous enregistrons. Cet enregistrement va être diffusé sur les ondes de Radio Saint-Ferréol le mardi 5 décembre 2023 à 12h, dans le cadre de son émission La Collective. Cette émission va être consacrée à la Maison d'Elisa, située à Vercheny, dans la vallée de la Drôme, entre Saillant et Die, acquise récemment par l'association Voix Libre, dans le cadre d'un financement participatif et permettant d'accueillir des personnes étrangères sur le chemin de leur installation en France, fuyant les difficultés de leur pays d'origine. Alors pourquoi une telle émission ? À l'Esti de Valence, ces derniers mois, nous avons été submergés par des situations de personnes et de familles étrangères à la rue, dormant dans des parcs, à la gare routière, etc. Ce sont soit des mineurs isolés, non reconnus comme tels par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, des jeunes demandeurs d'asile auxquels aucune proposition d'hébergement n'a été faite, des familles avec enfants déboutées du droit d'asile. En effet, Valence, comme la vallée de la Drôme, se situe sur les routes de l'exil. Par la force des choses ou par choix, Valence se trouve et souvent le lieu où les migrants s'arrêtent, cherchant le moyen d'être accueillis. Nous avons cherché par tous les moyens de trouver des solutions pour offrir un toit à ces personnes, en faisant appel à la solidarité des habitants, qu'ils soient membres de nos associations ou non, en mobilisant tous les réseaux de solidarité, que ce soit sur Valence ou ailleurs. C'est ainsi que nous sommes rentrés en contact avec des associations de la vallée de la Drôme, et notamment Exilés Crétois sur Cré et la Maison d'Elisa sur Vercheny, avec l'association Voix Libre. Remercions-les pour nous avoir répondu favorablement. C'est ainsi que Zié, ici présent, qui va intervenir dans cette émission, se trouve aujourd'hui à Vercheny, à la Maison d'Elisa, et que nous est venue cette idée de faire cette émission. En effet, c'est important de prendre conscience des multiples initiatives de solidarité sur le territoire et parmi la population, et qu'il est possible de les relier pour trouver des réponses concrètes à des situations, mais aussi pour se mobiliser. Voilà, alors après cette introduction, nous allons faire un tour de table pour que les participants se présentent. Alors Stéphane, si tu veux bien te présenter.
Je m'appelle Stéphane, j'habite Saillant et je suis engagé dans l'association Voix Libre depuis sa création, donc en 2017.
D'accord. Donc on reviendra plus amplement. Zié, tu peux te présenter s'il te plaît.
Je m'appelle Ouattara Zié à l'état civil.
Parle dans le micro s'il te plaît.
Je m'appelle Ouattara Zié à l'état civil. Et donc j'habite actuellement et j'héberge dans la vallée de la Drôme, à Vercheny. Donc, l'association Voix Libre de la Drôme s'occupe de nous.
D'accord. Donc, tu es dans la Maison d'Elisa, c'est ça ?
Bien sûr.
C'est là que tu es hébergé.
Oui.
OK. Geneviève ?
Alors, Geneviève Kempf de l'Esti Valence.
D'accord. Et puis moi-même, Jacques Hébel aussi de l'Esti de Valence. Et puis, n'oublions pas les bénévoles de la radio Saint-Ferréol, sans lesquels rien ne serait possible, et qui assurent la technique. Manu, notamment.
Merci.
Et puis, Julien, qui se forme.
Merci.
Voilà, donc ça, c'est très, très appréciable. Voilà, alors avant de rentrer dans les débats et de parler de la maison d'Elisa, je vais donner la parole à Geneviève, qui va nous faire part d'une actualité brûlante avec le projet de loi immigration, qui a été considérablement durci à l'issue de son examen par le Sénat. Donc, on a un projet qui en date du 14 novembre et qui entame maintenant son examen au Parlement. Elle va nous faire part de son espoir de voir s'élever une résistance à ce projet anti-étranger, largement nourri par les idées de l'extrême droite.
Alors ça y est, la loi immigration est arrivée ce lundi à l'Assemblée nationale. Alors tout d'abord, il y a une semaine d'examen de la loi en commission. Et le 11 décembre, il y aura de longues séances à l'Assemblée. Ça va être une lutte difficile pour la gauche. Nous voulons montrer qu'un accueil digne de ce nom est la voie d'une meilleure cohésion sociale, résume Elsa Francillon, députée du PCF. La gauche va s'unir pour faire entendre sa voix. Quelques nuances cependant pour l'article 3 supprimé par le Sénat qui prévoit la régularisation des sans-papiers travaillant dans les métiers en tension. Certains socialistes, communistes, écologistes y sont favorables, tandis que les insoumis critiquent cette loi qui est dans la droite ligne de l'immigration choisie prônée par Nicolas Sarkozy en 2005. Les députés de gauche seront mis d'une seule voix contre les textes adoptés par le Sénat après les suppressions de l'AME et des allocations pour les étrangers vivant depuis 5 ans en France. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dès le départ, en commission, l'AME a été remise. Donc, il n'y aurait plus de suppression de l'AME par l'Assemblée nationale. Au cours des débats, la gauche défendra aussi d'autres amendements. Un pour interdire les tests osseux pour les mineurs isolés, pour voir quel âge ils ont. Un autre pour interdire l'enfermement des mineurs en centre de rétention. Et un dernier pour élargir la régularisation à tous les travailleurs étrangers et pas seulement aux métiers en tension. Unité de la gauche retrouvée qui appelle à une soirée de la fraternité le 4 décembre à Paris, organisée par Génération dans une salle de Belleville. Du jamais vu depuis la mobilisation contre la réforme des retraites. Nous allons suivre ce dossier très, très minutieusement parce que je pense qu'il y aura pas mal de rebondissements. Voilà.
Ok, merci Geneviève. Bon, c'est vrai que bon, là, on va pas trop s'étendre sur le détail de cette loi immigration à l'issue de son passage au Sénat, mais c'est vrai que ça a été un grand défoulement de mesures anti-étrangers. Donc, il y aura sûrement un rééquilibrage. Bon, je vois que toi, tu es très optimiste quant à la capacité de la gauche d'infléchir les choses. Ben, écoute, on verra. En tout cas, je pense qu'on en reparlera dans le cadre de cette émission quand les discussions auront abouti, parce que c'est vrai que ça conditionne notamment la vie de nos associations et notamment le travail qu'on fait auprès des étrangers dans leur accueil en France. Déjà aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Stéphane, tu peux en parler ?
Non, mais c'était juste par rapport à ce qui a été dit sur la loi. Hein, c'est qu'on voit aussi qu'il joue là quelque chose que les politiques utilisent fréquemment, c'est-à-dire qu'on va durcir. Et puis après, on va revenir en arrière et puis voilà, ça va donner bon dos et on va dire ah, mais c'est bon. Alors que dès le départ, en fait, cette loi, elle est assez ignoble. Hein. Dès le départ, le texte de départ, il est déjà assez infâme. Et notamment, on parle de régularisation dans les métiers en tension, mais ce n'est pas une régularisation. C'est un titre de séjour pour 1 an, en fait. Oui. Donc c'est vraiment, en fait, c'est, pour moi, c'est une esclavagisation. Quoi. C'est trouver des gens qui vont travailler pour pas cher dans des métiers où on manque de gens. Et c'est pas du tout une régularisation, donc attention à cette loi. Et même s'ils reviennent, et apparemment c'est ce qui va sûrement se passer par rapport à l'Assemblée nationale, le texte de base, déjà, il y a des mesures déjà qui sont complètement difficiles, et notamment pour les personnes accueillies qui vont leur rendre la vie très très compliquée. Ouais.
Oui, parce que ces métiers en tension, au bout d'un an, c'est
chaque année, ça va être réévalué,
envoyé dans leur pays d'origine. Mmh. Donc, c'est vrai que nous, on n'y a jamais véritablement cru à l'ASTI, et Voilà, donc, alors que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est une porte ouverte, etc., mais pas du tout, hein, c'est, voilà. Ok, bon, alors, voilà, donc, on va maintenant revenir sur la maison d'Elisa. Mais avant de nous lancer dans la discussion et dans la présentation de ce projet, on va écouter une belle musique, Exil. C'est qui Paulette, de la famille Walili, qui parle du voyage, de l'exil. C'est un choix de Stéphane qui peut peut-être nous commenter ce choix.
Oui, bah vite fait, ça a été une découverte récente, rencontre des résistantes cet été sur l'Arzac, là. Et je ne les connaissais pas, et en fait, c'est une famille nomade qui fait du cirque, qui a un chapiteau, qui était forain, quoi.
Ouais.
Et puis, ils ont ce groupe, et... avec beaucoup de thématiques autour de la solidarité, autour de la résistance. Et à un moment, dans leur concert, ils ont fait asseoir tout le monde et ils sont mis à entonner cette chanson avec toutes ces voix qui ressortent et ce texte aussi qui est fort.
C'est assez
et
poignant,
moi, ça m'a vraiment super touché.
D'accord, ben on va l'écouter. Nous allons entamer cette discussion sur la maison d'Elisa. Alors Stéphane, est-ce que tu peux nous présenter plus amplement cette association Voix Libre et toutes vos activités, comment vous fonctionnez, sur quel périmètre ?
Donc nous, on est né en 2017 et on était plutôt des amis, on va dire, qui étions sensibles à ce qui se passait en France, avec toutes ces personnes qui arrivaient, ces blocages à Calais, les CAO qui se créaient. Et puis on s'est dit, tiens, dans nos campagnes, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose? Et puis il y avait une asso qui se bougeait du côté du Diwa. On les a rencontrés, on est allé à Briançon. On a commencé à accueillir des personnes chez nous, chez les habitants, des jeunes. Et puis très vite, il y a un couple qui est venu à une de nos réunions et c'était un peu incroyable, hein. Ils sont arrivés, puis en gros ils avaient une maison à mettre à disposition de l'association pour accueillir, donc très vite on a monté le chantier de rénovation de la maison avec plein de bénévoles tout de suite qui sont venus, donc ça c'était un moment important de l'association au début, toute cette énergie qui s'est mise en place avec les personnes accueillies, avec tous ces bénévoles, et on a refait l'isolation, la toiture, enfin bref, pour avoir une maison saine. Et puis on a commencé à accueillir, donc on a accueilli 1, 2, 3, 4, 5, on est monté jusqu'à 12 personnes qui ont intégré cette maison, donc qui est une maison située à Vercheny, qui est assez grande, hein, forcément, il y a 10 chambres, il y a un grand jardin, c'est vraiment une maison super agréable. Et puis cette coloc a commencé à se mettre en place, et nous on a accompagné tout ça avec l'idée au départ de Voilib, il y a quand même deux piliers, on va dire, c'est de faire de l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire de l'accueil quel que soit d'où on vienne, ses papiers, peu importe. Et puis la deuxième, c'était vraiment l'idée de faire avec les personnes accueillies et de, on ne voulait pas faire pour. Enfin bref, on avait cette idée de construire des choses avec, avec toutes ces personnes. Donc, on a mis en place des équipes pour le juridique, le médical, le professionnel. Et puis aussi, par exemple, ça, c'était des moments forts aussi de l'association, on a mis en place deux pièces de théâtre qui parlent pour l'une du parcours migratoire et pour l'autre de l'excision. Et on avait vraiment envie de créer des activités où on puisse partager des choses. Pareil pour la cantine, on a commencé à mettre en place une cantine, c'est-à-dire la restauration mobile un peu, où on va sur des événements, etc. Mais c'est pareil, qui permet du partage, qui permet de faire des choses ensemble sur un pied d'égalité, on va dire. Et voilà, et puis plein d'autres projets qui se sont développés. Il y a Herman qui a monté, qu'on va entendre tout à l'heure, qui a monté un studio de musique. On a construit un four à pizza. Voilà, la maison petit à petit a pris vie, les gens s'en sont emparés. Et puis pendant 5 ans, la maison a vécu. Il y a eu 25 personnes qui sont passées à la maison pour des périodes différentes. Entre, on va dire, quelques nuits et puis quelques années. Et puis est arrivé le Covid. Et puis là, c'est vrai que c'était un petit, comme plein d'associations, on a connu un petit moment de mou. Et puis des gens qui sont partis aussi, des gens qui ont arrêté parce que c'était difficile aussi pour eux, parce que s'engager dans une association qui accompagne, avec cette thématique de la migration de personnes qui sont en exil, c'est pas rien, hein, humainement. Et voilà, donc on a eu un petit coup de mou et puis on s'est relancé et on a réussi à racheter cette maison puisque les propriétaires la mettaient en vente, souhaitaient la vendre après 5 années de mise à disposition. Et donc, on s'est lancé dans ce défi il y a un an, un peu moins d'un an, pour racheter cette maison et qu'elle puisse continuer à être un lieu d'accueil, un lieu d'organisation, un lieu de vie, un lieu où on puisse faire vivre la solidarité. On n'emmenait pas l'argent au début et puis on a réussi à récolter même plus que la somme, les 320 000 nécessaires. Donc, ça a été vraiment une bouffée d'oxygène et ça a fait du bien de voir que...
Donc, il y a eu de nombreuses personnes qui ont répondu à votre appel pour participer financièrement à ce projet.
Plus de 200, ouais.
Plus de 200,
plus de 200 personnes avec des dons et des prêts. Donc, il y a 200 000 de prêts, on va dire, et 150 000 de dons. Donc, c'est énorme. Hein,
énorme.
Ouais. Et c'est vrai que c'est important. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait une fête pour le célébrer. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à retenir que les mauvaises nouvelles et qui sont véhiculées par les médias sur ces groupes, par exemple à Sabrévin, qui vont attaquer un maire qui veut accueillir dans son village des migrants, ou à Briançon ce qui se passe, ou là en ce moment aussi, on a dans l'actualité quand même des choses qui se passent assez terribles. Il faut aussi qu'on ait conscience qu'il y a partout plein de solidarité, plein de gens qui agissent de différentes manières, que ce soit en aidant financièrement, en venant aider à la construction d'un four à pizza, en accompagnant une personne en exil chez le dentiste à Diolfi. Enfin bref, il y a vraiment plein de manières et quand on les met bout à bout, mine de rien, ça fait beaucoup.
Et ces personnes qui ont participé, elles viennent de quels horizons? Elles viennent de toute la France ou elles sont plus sur la vallée
De par notre situation et de la manière dont on a communiqué, c'est plutôt dans la vallée. Après, on n'a pas fait d'études précises, mais par exemple, je sais qu'on a une personne de La Réunion qui nous a fait un don. Il y a des gens du nord de la France, après c'est dans nos relations aussi familiales, etc. Mais c'était bien relayé, en tout cas on a senti qu'il y avait vraiment, que ce soit dans les radios, les assos partenaires, etc. Il y a eu vraiment une volonté de diffuser ça et on l'a senti, parce que c'est... Au final, on a réussi à récolter la somme. Et
est-ce que ça a étoffé un peu votre association? Vous êtes plus nombreux autour de la table pour vous retrouver? Comment ça marche?
Alors, ça nous a donné de la force, ça c'est sûr. Après, comme on a été très pris par ça, parce que c'est quand même, mine de rien, chronophage avec toute la partie juridique, les dossiers, les contacts, les allers-retours, les virements, les machins, les trucs, enfin bref. Donc, on a été moins ouvert vers l'extérieur, on va dire. Mais on a quand même organisé quelques événements et on en organise un prochainement le 16 décembre. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Et du coup, l'idée là maintenant, effectivement, c'est d'étoffer un peu ce collège. Le collège, c'est un peu l'instance qui se réunit régulièrement et qui s'assure de la bonne marche de la maison, de la bonne marche de l'asso. Il y a des personnes de la maison qui en font partie, 3 personnes qui sont dans le collège. Et donc là, il y a vraiment une envie de consolider tout ça parce qu'on a plein de projets, en fait. On a cette maison, maintenant, elle est à nous. Et on a plein de projets, mais c'est vrai que ça va demander qu'il y ait des personnes qui s'investissent.
Vous avez fait des très gros travaux sur cette maison parce que moi, quand j'y suis venu, j'étais frappé parce qu'on rentre dedans, il y a une impression de chaleur. C'est vrai que vous avez fait une isolation par l'extérieur. C'est pas une maison qui... Enfin, vous avez fait des gros travaux d'amélioration.
Ouais, au début, vraiment au tout début, on a eu la volonté de la mettre bien, quoi.
Ouais, et, ça va bien, ça.
Et donc, du coup, au niveau isolation, toiture, etc., ouais, c'est nickel.
Ça non, fait une bonne base, pour se projeter. Voilà, bah, avant de continuer sur le fonctionnement, hein, on va peut-être écouter un second morceau de musique. Et ce morceau de musique, il a été choisi par Zié. C'est un morceau qui s'appelle « Aime ton prochain » du chanteur ivoirien Soumbil. Voilà, peut-être que Zié, tu peux nous parler de ton choix ?
Oui, bien sûr. Soumbil d'abord était dans un groupe appelé les Salopards. Ils étaient réfugiés en 2000, ici en France. Et après la guerre, ils se sont retenus au pays. Et c'est après que Soumbil il a fait une carrière solo. Et le premier son, son premier son était intitulé « Aime ton prochain ».
D'accord.
Pourquoi ? Parce que Soumbil, il est né d'une famille. Il est né d'une famille de père musulman et d'une mère chrétienne. De l'un peu des deux religions. Il n'a pas pu choisir une religion. C'est pourquoi il a préféré chanter cette chanson. Pour que, peu importe ta religion, pour ton titre social, tu dois être aimé, eux aussi aimer d'autres personnes.
Oui, c'est vrai que c'est un texte un peu œcuménique, c'est-à-dire que c'est l'amour qui est mis en avant.
Ah.
Et toi, ça te parle aussi, parce que ça rejoint
oui, ça
un peu
parle,
ta situation personnelle.
Bien sûr.
D'accord.
Le bonheur de la vie, la vie, l'amour.
Nous allons reprendre notre discussion sur la maison d'Elisa. Alors, cette maison d'Elisa, comment ça marche ? Parce que, enfin, j'en ai une petite idée, parce que j'ai accompagné Yassier quand tu es arrivé, et j'ai vu qu'il y avait quand même un certain protocole d'introduction quoi, dans la maison d'Elisa. Alors, peut-être que vous pourriez en parler tous les deux, toi en tant que responsable, si on peut dire, du projet, et puis toi qui es arrivé dans cette maison d'Elisa. Stéphane, tu prends d'abord la parole.
Oui, bah c'est vrai que c'est important et on a évolué depuis qu'on a cette maison en gestion. C'est vrai qu'on est plutôt, les personnes qui ont créé cet asso sont plutôt d'orientation libertaire, on va dire, enfin, qui ont envie, qui chérissent, on va dire, l'auto-organisation. Bon, voilà, on est parti avec ce bagage et puis on l'a confronté un peu à des personnes qui arrivaient dans des situations... qui sont compliqués, des fois éloignés de cette notion d'auto-organisation. Donc on a tâtonné, hein, on a avec du recul, on a fait des erreurs, etc. Mais en tout cas, on a essayé d'avancer et de faire que ça se passe pour le mieux pour les personnes accueillies et puis pour nous aussi. Et donc du coup, petit à petit, bah ouais, on a mis en place une charte, avec quelques règles de base, on va dire, par rapport à la tenue de la maison, par rapport aux soins apportés aux autres habitants, habitantes, par rapport aux produits illicites, par rapport à l'alcool, par rapport à des choses comme ça, les chiens, voilà, des règles un peu, on a mis en place un cadre. Mais on essaie de laisser aux habitants, aux habitantes, c'est eux aussi, à eux de construire, enfin, c'est un peu l'idée, de construire aussi comment ils veulent se rassembler, manger ensemble, acheter ensemble leur nourriture, etc. Et c'est une coloc, quoi, c'est une grosse coloc, bon, qui n'a pas été choisie par les personnes qui arrivent, donc, et une grosse coloc, donc c'est pas évident. Nous, on est là en soutien, en tout cas, on est là pour soutenir tout ça. Mais après, ça reste leur habitat, leur maison, et nous, on porte vraiment une grande attention à ce que ce soit... en tout cas, qu'ils aient voix au chapitre, par exemple, dès qu'on organise des choses là-bas, qu'on a envie d'organiser ou qu'il y a un accueil, c'est aussi avec les habitants. On les intègre vraiment aux décisions quoi, qui sont prises et au fait qu'il y a quelqu'un qui arrive. Au bout de 15 jours, on fait un point avec eux, avec elle, avec la personne accueillie. Enfin, voilà, c'est un peu l'idée globale de cette maison. Et puis, et après, plus globalement, ce qu'on a envie, c'est... Bon, ils sont là, c'est chouette, enfin, tant mieux. Mais l'idée, c'est vraiment que les personnes s'autonomisent et puis puissent partir ailleurs, comme l'ont fait Herman et Chata, comme l'ont fait Mawa et son compagnon. Qu'ils puissent avoir leur vie comme bon leur semble, quoi. Hein, parce que des fois, ça peut être subi, une coloc. C'est vrai que ça peut être intéressant à un moment d'avoir son logement. Donc, c'est vraiment cette idée-là, que ces personnes, au bout d'un moment, elles puissent... que ce soit financièrement et puis dans leur activité, puissent voler de leurs propres ailes, quoi, complètes.
D'accord. Si tu veux bien, est-ce que tu peux nous donner un peu les circonstances dans lesquelles tu es arrivé dans cette maison d'Elisa et puis après nous parler un peu de ton accueil ?
Enfin bon, ça n'a pas été facile, comme je l'ai dit tout le temps. D'abord, j'ai été accueilli par l'association ASTI de Valence. Ouais, qui m'ont recueilli au premier instant. Et depuis, ça fait 4 mois maintenant. L'association aussi a aussi contacté 2 associations, comme la Voix Libre de la Drôme. Et je vis actuellement dans l'hébergement qu'ils nous ont fait, nous les étrangers. Et franchement, je suis content. J'ai repris mes formes, j'ai tout repris de moi, en fait. Et... j'espère avoir demain un futur meilleur.
D'accord. Alors, pour rappeler un petit peu les choses, toi, tu es venu de la Côte d'Ivoire.
Oui.
Et en fait, tu es demandeur d'asile.
Bien sûr. Hein,
et en fait, il se trouve que tu es passé par un pays, l'Italie en l'occurrence, où tu as laissé tes empreintes. Et donc, c'est ce qu'on dit de toi, que tu es dubliné.
Hein. Bien sûr.
Donc, ça veut dire que pendant 6 mois, il y a une sorte de période un peu d'attente, pendant laquelle on dit, bah, il ne va rien se passer pour toi. Enfin, si tu touches quand même une petite allocation. Mais parce qu'au bout de 6 mois, l'Italie va dire « on te reprend ou on te laisse en France
hein? ». C'est ça, exactement.
Voilà.
Il n'y a pas longtemps, j'étais à l'asile.com. là où j'ai tous mes coordonnées, tout ma domiciliation. Ils m'ont fait savoir que dans 2 mois environ, j'aurai peut-être un titre.
D'accord. Enfin, le statut de demandeur, tu es déjà demandeur d'asile, mais tu seras officiellement demandeur d'asile en France. Alors, donc, c'est vrai que, bon, c'est pas rien, parce que tu es quand même accueilli, il y a une adresse administrative, tu touches au bout de 1 mois environ une petite allocation, il y a quand même une protection au titre de la santé. Mais c'est vrai qu'au niveau du logement, ça a été assez dur, parce qu'ils ont dit, de toute façon, il n'y a pas d'hébergement pour tout le monde. Donc, ça va être priorité aux familles, mais les personnes adultes seules, démerdez, débrouillez-vous.
Aux familles, j'en ai vu tout dernièrement des familles à Valence qui sont là au même titre que moi, au même moment que moi, qui n'ont pas de maison.
Ouais. Il y a aussi des familles qui sont dans la rue avec des enfants. Donc, toi, tu as été dans la rue, tu as dormi pendant presque 2 mois.
2 mois.
Non. Hein, dans des parcs.
3 semaines.
3 semaines d'affilée. Et c'est vrai que c'est à cette occasion que...
Il y a eu la chance de croiser votre ami,
ouais.
Laurent Ganadon.
Et donc, c'est vrai que...
Tu vous as contenté.
C'est un peu comme ça que ça marche, parce que Laurent, il s'est beaucoup investi dans l'accueil d'un jeune qui a été déminorisé. Et puis, donc, lui, il promène son chien dans ce parc. Il dit, attends, ça fait 3 semaines que je vois ce gars-là qui est sur un banc. Bon, il a dit, tu peux faire quelque chose. Donc, il nous l'a amené à l'association. Et puis, on s'est un peu débrouillé pour t'accueillir. Mais après, bon, on a cherché un relais. Et en fait, on a sollicité le projet de la maison d'Elisa. Voilà. Donc, est-ce que tu peux parler de ton arrivée à la maison? On était ensemble. Comment ça s'est passé, ton accueil à la maison d'Elisa?
Bon, mon arrivée, c'était... Il y avait déjà des documents qui devaient signer. Des documents sur ma venue. Le temps pour moi de rester dans la maison Elisa. Il y a des documents à signer. Au bout de 15 jours, moi, fumé au bout de 15 jours. Il faudrait que je puisse faire, comment on l'appelle, il aura une évaluation de mon séjour.
D'accord. Oui, ces fameux 15 jours un peu probatoires.
Oui. Et aussi des règles de la maison, mais qui sont tout autant respectées parce que là-bas, les habitants qui sont là-bas, franchement, sont bien, ils causent pas de problème. Tu sors, mais t'es pas obligé de... Si tu veux pas parler avec des gens, tu n'es pas obligé de parler. Tu peux seulement lui dire bonjour et ça passe.
Mmh.
Il y a des personnes, tu peux aujourd'hui, vous pouvez être ensemble, vous allez parler, discuter, mais ils préfèrent éviter les conflits. C'est pourquoi ils préfèrent se réserver dans les appartements.
Oui, c'est à la fois quelque chose de collectif, mais l'individualité de chacun est respectée, quoi. Hein. D'accord. Alors, on reparlera un peu de ton accueil, comment ça marche, comment tu ressens les choses, comment tu te projettes dans l'avenir. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas très simple gérer une maison comme ça où il peut y avoir jusqu'à 10, 12 personnes. Financièrement, c'est aussi un petit enjeu, quoi. Et c'est pas très compliqué tout ça, parce qu'au bout d'un moment, il y a des besoins aussi d'accompagnement, de... Et puis même financièrement, c'est-à-dire certaines personnes arrivent, n'ont aucune ressource.
Ouais, c'est sûr que le point de vue financier, il n'est pas négligé. Et surtout que là, on a acheté la maison, mais on a un prêt. Bon, ce n'est pas tout de suite les remboursements, mais on va avoir ce prêt à rembourser. Donc c'est un enjeu. C'est d'ailleurs pour ça que là, on est en démarche pour la création de 2 postes de 26 heures. Grâce à une fondation, la fondation Abbé Pierre, qui nous a alloué une participation financière. Et puis avec Pôle emploi, un dispositif d'emploi aidé. Donc c'est en cours et on espère que ça va débuter en janvier. Parce que comme je le disais tout à l'heure, ouais, c'est sûr que s'engager bénévolement dans une association comme Voix Libre. Et bon, même s'il y a plein de manières de s'engager, mais c'est vrai que c'est pas rien, hein, humainement, dans la vie. Et puis avec tout ce qu'on traverse, ça bouscule. Et donc, d'où l'importance d'être nombreux, nombreuses, et d'avoir une organisation qui permet de se serrer les coudes. Et là, c'est justement ça, on a essayé de remettre du ciment avec, j'en ai parlé, la charte. Enfin bref, on a remis en place tout un tas d'outils. Et là, l'idée, c'est vraiment, dans les 2-3 prochains mois, de recréer des équipes. Par exemple, on a un jardin de 1000 mètres carrés, là, qui est pas, où on peut faire plein de choses dessus. On va essayer de monter une équipe. On va essayer de monter une équipe aussi pour le suivi juridique, dont on a délégué un peu à d'autres associations, là, comme la CIMAD. Mais bon, voilà, aussi pour les cours de français, essayer de remonter une équipe. Voilà, tout un tas de choses qu'on a envie de faire. La guinguette, c'est-à-dire qu'on a un lieu qui peut accueillir qui a déjà accueilli des différentes formes culturelles, on va dire, des groupes, des spectacles. Et on aimerait bien l'améliorer, donc aménager, et puis réfléchir à un fonctionnement au printemps, à l'automne, où on puisse accueillir du monde de manière plus régulière.
Être un lieu un peu d'animation.
Voilà.
Où
il se passe des choses, où on puisse se rencontrer, où on puisse manger des repas venus d'ailleurs. On puisse, la rencontre. Et proposer des films divers et variés, mais notamment des films qui parlent un peu des frontières, de la migration. Voilà, pour sensibiliser aussi, pour informer, parce que c'est aussi un des piliers de l'association, c'est de se dire, on accueille tout ça, mais on a aussi envie d'apporter de l'information et de montrer un peu le côté inhumain, voire raciste maintenant, de toute cette politique mise en place en haut de l'État, quoi. Et donc d'essayer avec les autres associations. Et il y en a un paquet, que ce soit dit la Trame, Passerelle, l'association Passerelle, la Parallèle, etc., l'ASTI, qu'ensemble on essaie de faire bouger les choses, même si en face on a une grosse machine, mais en tout cas c'est important de sensibiliser les députés, enfin il y a tout un tas d'actions à faire quand même, mine de rien, et puis qu'on sorte de cette spirale de loi difficiles les unes des autres pour les personnes accueillies, et qu'on aille vers un accueil digne, un accueil comme on devrait pouvoir le faire en étant la cinquième puissance mondiale. Enfin bref, c'est complètement hallucinant qu'on accueille des gens comme ça dans un pays aussi riche, en tout cas où il y a de la richesse.
D'accord. Bon, on va continuer à discuter de tout ça, mais on va écouter un dernier morceau de musique. Donc c'est encore un morceau que tu as choisi, qui s'appelle « Un monde sans peur ». Donc, c'est un des résidents qui l'a...
Alors ouais, Herman, c'était un pilier de la maison. Herman, il est arrivé au tout début. Et puis, Herman, il est dans la rue depuis qu'il a 8 ans. Il a vadrouillé. Enfin, il a une vie incroyable. Et puis, il a dû fuir son pays parce qu'il s'est fait pourchasser, laissé pour mort dans une forêt. Et il est arrivé ici et il a eu envie de continuer de chanter. Donc, il a monté le studio de musique à la maison d'Elisa. On a été en soutien, mais c'est lui qui est vraiment... Il a fait un CD avec plein de musiciens, de musiciennes du coin. Et c'est un des titres de son album qu'il a sorti. Et donc voilà, ça me paraissait intéressant de... Et puis Herman, c'est aussi quelqu'un qui maintenant habite à Cré, qui a eu un enfant, Isaac. Et c'est
fait partie de la grande famille.
De la grande famille, ouais.
De la maison. Alors vous écouterez ses paroles, mais il dit « Un monde sans peur, un monde sans racisme, sans raciste, un monde qui résiste ». Voilà, on écoute le morceau.
Maître, je suis né pour être ce que je veux quand je peux sans la peur des lettres. Si la vie m'avait donné le choix de naître, j'aurais préféré être un arbre qui guérit la haine, un arbre qui ramène les démurés à la raison, plus de haine, un arbre qui servira des médicaments, des non-violences dans ce monde si vaste et sans haine. Mais je n'ai pas le choix. En tant qu'humain, je vous offre ces textes qui me tiennent à cœur. Aïe, j'aime bien ces textes. Je te le donne si tu l'aimes bien. Partage à tout le monde, à tous les habitants du monde. Où va le monde? Sauvons le monde. C'est mon monde, c'est ton monde, c'est son monde, c'est le monde de tout le monde. Où va le monde? Sauvons le monde. Je veux un monde sans peur, un monde sans heurts, un monde sans armes, un monde sans douleur. Où va le monde? Sauvons le monde. C'est mon monde, c'est ton monde, c'est son monde, c'est le monde de tout le monde. Où va le monde? Sauvons le monde. Je veux un monde sans peur. Je veux un monde sans peur. Je veux un monde qui résiste.
Je veux un monde sans peur. Je veux un monde sans raciste, sans raciste, sans raciste. Je veux un monde sans peur. Je veux un monde qui résiste. Je veux un monde sans peur. Je veux un monde sans raciste, sans raciste, sans raciste. Je veux un monde sans peur. Je veux un monde qui résiste. Je veux un monde sans peur. Je veux un monde sans raciste, sans raciste, sans raciste. Je veux un monde sans peur. Je veux un monde qui résiste. Je veux un monde sans peur. Je veux un monde sans raciste, sans raciste, sans raciste. Se joindre les coudes pour un monde meilleur. On est plus calme si on garde nos valeurs. Liberté, unité et solidarité dans la prospérité. Ici, on est parti des nouveaux récoltés, l'unité contestée. Mieux à l'heure, sans erreur, on retrouve nos valeurs. Je veux un monde sans peur. Je veux un monde sans peur. Je veux un monde qui résiste. Je veux un monde sans peur. Je veux un monde sans raciste. Sans raciste, sans raciste. Je veux un monde sans peur. Je veux un monde qui résiste. Je veux un monde sans peur. Je veux un monde sans raciste. Sans raciste, sans raciste. Je veux un monde sans peur. Je veux un monde qui résiste. Je veux un monde sans peur. Je veux un monde sans raciste. Sans raciste, sans raciste. J'irai de vivre ceci, de voir un monde qui résiste. J'irai de vivre ceci, de voir un monde qui persiste. J'irai de vivre ceci, de voir un monde sans racisme. Résiste et persiste, non au racisme. J'irai de vivre ceci, nul ne peut changer le monde si c'est pas nous-mêmes les hommes. J'irai d'aller plus loin que les cœurs déprimés. Retrouve le sourire perdu au profit de la haine. Trop vu dans la vie, trop vu dans la vie. Je veux un monde sans peur. Je veux un monde sans peur.
Voilà, revenons à la maison d'Elisa. Donc on a compris que ce n'était pas uniquement un lieu d'hébergement, mais un lieu où c'est vrai que qui accueille aussi dans l'urgence. Et puis un lieu où aussi on se reconstruit. Hein, pour voilà, c'est pas évident. Hein. Et où un peu aussi un lieu où en fait des projets peuvent voir le jour, que ce soit collectif ou à titre individuel. Donc, peut-être que Zié, c'est vrai que toi, ça fait combien de temps maintenant que tu es à la maison d'Elisa ?
2 semaines.
2 semaines ?
2 semaines, oui.
Voilà. Alors, au début, ça t'a fait un peu un choc parce que tu t'étais habitué à la ville, à Valence. Et donc, tu t'es retrouvé à Vercheny. Hein ? Comment ça s'est passé alors ?
Bon, j'ai essayé de m'adapter à sortir, Montsoul, en promener, visiter, voir de nouvelles personnes. Et franchement, la communauté là-bas, ils sont accueillants. Ils ont pas un regard, un autre regard envers nous. Ils nous accueillent tels que nous sommes. Et franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Donc, je pense que la maison Elisa, c'est un bon endroit, en fait.
D'accord. Donc, c'est vrai que pour l'instant, pour toi, c'est un peu compliqué parce que ton statut ne te permet pas encore de travailler.
Oui.
Alors, bon, après, toujours peut-être possible de faire des césus, des choses comme ça, faire des travaux de jardinage. Donc ça, c'est admis. Hein. Vrai boulot salarié, après, ça dépend aussi un peu de l'engagement de l'employeur. Parce qu'en fait, c'est possible hein, de faire travailler une personne étrangère qui n'a pas encore ses papiers en lui donnant un compte de travail et un vrai salaire. Et voilà, mais c'est vrai que toi, c'est un peu compliqué parce que, en fait, qu'est-ce que tu aimerais faire dans l'immédiat, quoi ?
Non, maintenant, il y a encore plus peur des nouvelles lois qui s'imprègnent actuellement dans la France. Donc, je ne sais pas pour le moment ce que j'aimerais faire parce qu'il y a un peu peur.
Oui, tu as un peu peur. Ah. Mais en fait, ce que tu voudrais dans un premier temps, peut-être profiter de la maison d'Elisa pour te former, trouver des formations.
Il y a Alice qui doit venir, puis disons, la semaine prochaine, pour des cours de français.
Ah oui, Alice, c'est une personne de l'association. Mm-hmm. Voilà. Donc déjà, faire un peu de cours de français. Mm. Il y a d'autres choses qui t'intéressaient, par exemple, comme les cours d'informatique ou...
Non, y...
pas bon, encore, mais y... ça peut peut-être venir.
Voilà, ça peut peut-être venir parce que c'est et Vechny, la maison Elisa, c'est un peu isolé.
Isolé,
oui. Et du coup, faire une grande, j'en prends des bus, c'est un peu aussi, c'est un peu coûteux.
Tout pour l'instant, temps, mais tu vas avoir une carte de bus bientôt là, quand non? Avec asile.com.
Avec asile.com, mais c'est pas maintenant.
D'accord, ok. D'accord. C'est vrai que à la fois c'est isolé, pas si isolé, parce que on est. C'est vrai que la vallée de la Drôme, c'est particulier, quoi. C'est un axe. Et puis en fait, on a des villes un peu tout autour. Hein. Il y a Creil, il y a Saillant, il y a Die. C'est des petites villes où il se passe pas mal de choses.
Moi, je suis bien content. Je suis bien content. Il préfère m'éloigner au moins du monde parce que ça attire plus d'amis. Ça attire plus de problèmes.
Ouais, il y a ça, ouais. D'accord.
Non, mais c'est sûr qu'après, c'est une maison, comme tu dis, qui est un peu isolée, même si nous, c'était important d'avoir un axe.
Vous êtes dans un village.
Il y a un arrêt de bus à 30 secondes de la maison. Il y a le stop qui est possible, qui marche quand même relativement bien. En vélo, on peut quand même un peu circuler. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas dans une ville comme Valence où le soir, bon, ça, il ne se passe pas grand-chose à Vercheny. Mais bon, voilà, il y a quand même une épicerie qui est chère, hein, Zier. mais
c'est
voilà, ça peut dépanner.
C'est plus cher que Lidl, bon.
Voilà, ça peut dépanner. mais c'est quand même un lieu. Voilà. Et puis après, chaque personne, c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent et qui ne se retrouvent pas dans ce type d'habitation. Et puis d'autres à qui ça plaît. Bon, je pense que c'est comme nous. Hein. Moi, je ne suis pas originaire d'ici. Je suis venu là parce que ça me plaisait. Bon, c'est un choix de ma part, c'est pas forcément un choix, mais je veux dire, il y en a qui s'y retrouvent. Et après, enfin, juste revenir sur ce point de l'activité, c'est vrai que c'est un des gros soucis, c'est-à-dire que les personnes qui viennent ici, c'est très compliqué pour elles de se mettre en activité et d'être rémunérées pour ça. Et donc, du coup, il peut y avoir beaucoup d'ennuis, en fait, parce qu'elles sont bloquées, en fait, et elles sont dans l'attente, dans leurs papiers, et c'est ça qui est dur. Et ne pas pouvoir postuler pour des emplois et gagner à la fois des sous. Et donc, c'est vrai que ça, il y a tout ce volet-là aussi qu'on aimerait remettre un peu en activité, recréer une équipe aussi qui va plus s'occuper de ça, regarder un peu qu'est-ce qu'il y a comme formation possible au niveau des employeurs, où est-ce que c'est possible, etc. Et qu'on arrive à un petit peu à coordonner tout ça pour avancer avec toutes ces personnes, même s'il y a des choses qui se passent. Hein, parmi les personnes accueillies, il y en a qui... aujourd'hui, il y avait une des personnes de la maison qui bossait, qui est, toute cette semaine, elle bossait. Mais c'est sûr que c'est pas évident du tout, quoi.
Voilà. Donc ça montre que, en fait, c'est vrai que vous accueillez, mais il y a aussi des attentes très fortes parmi les personnes que vous accueillez, que vous hébergez, en matière d'accompagnement. Et c'est tout l'enjeu, finalement, de renforcer cet accompagnement au sein de la maison d'Elisa, quoi. C'est le projet que tu commençais à décrire, de professionnaliser, entre guillemets, cet accueil avec des personnes qui seraient salariées. Et qui assurerait une présence plus forte.
Bah c'est ça, ouais. Ça ferait deux postes de 26 heures, 52 heures par semaine dédiés.
Voilà, ça changerait beaucoup de choses.
Ça changerait beaucoup de choses, effectivement.
Parce que c'est vrai que le militantisme, le bénévolat, bon, c'est bien, mais ça aussi un peu ses limites aussi, d'une certaine façon, quoi. On peut pas être tout le temps sur la brèche. Il y a un moment, il faut préserver sa vie personnelle.
Complètement.
Et donc c'est pour ça que ce type de structure, c'est bien qu'il y ait un petit mouvement vers la professionnalisation et s'il peut y avoir des moyens permanents.
Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais nous, l'autonomie, c'est vraiment quelque chose qui nous parle et on essaie de le mettre dans tout ce qu'on fait, d'y penser. Et par exemple, en ce moment, avec d'autres associations, avec aussi une chercheuse, on est en train de développer un outil de cartographie, en fait, hein, une carte de la vallée où on est en train de répertorier tous les lieux qui peuvent être utiles pour faire ses papiers, pour aller au dentiste, pour trouver des vêtements pas chers, pour trouver un panier solidaire de nourriture. Je ne sais pas, pour un club de foot. Enfin, voilà, essayer d'avoir un outil qui permette à la fois pour les personnes accueillies et pour les personnes accueillantes, on va dire, de faciliter les choses, quoi. Et comme on œuvre, on est plusieurs structures à faire un peu de la même chose, entre guillemets, et ben on s'est dit, allez, on va essayer de faire ensemble quelque chose qui va nous faciliter la vie et faciliter la vie des personnes qui arrivent.
D'accord. Donc... Voilà, donc c'est vrai que ce mouvement est important, et notamment le lien avec les autres associations, quoi. C'est vrai que vous épaulez un peu mutuellement, hein ?
Complètement, ça c'est fort depuis un an, un peu plus d'un an. C'est vraiment quelque chose qui est assez fort, puisqu'il y a même, par exemple, il y a des formations inter-asso tous les 2 mois et demi. La dernière, c'était sur animer une équipe bénévole. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Ça fait du bien de partager les expériences. Il y a aussi le réseau des maisons accueillantes dont on fait partie, qui est un réseau national. J'étais aux rencontres il y a moins d'un mois avec plus de 20 lieux de toute la France qui accueillent aussi, que ce soit à Briançon, à Calais, à Marseille, et avec différentes manières de faire aussi. Et donc, on échange beaucoup là-dessus parce qu'on tâtonne. Hein. C'est pas des choses qui sont réglées. Et, l'humain, ça se vit, ça se travaille, ça se modifie. Et donc, ça fait vraiment du bien, de voir qu'il y a d'autres structures et avec qui on a des projets aussi. Je ne sais pas si je peux parler, par exemple, du projet OACAS. Bon, bref, c'est un projet qui...
Ce projet, comment tu l'appelles ?
OACAS. OACAS, c'est un dispositif qui est dérogatoire. C'est le seul dispositif qui permet d'employer des personnes sans papier de manière officielle. Les Emmaüs emploient ce dispositif. D'accord. Qui a été mis en place... Il y a 20 ans, mettons. Et du coup, tous les Emmaüs sont des OACAS. Il y a d'autres structures qui sont des OACAS. Et ça permet aux personnes accueillies de travailler, même si elles n'ont pas de papier, et d'avoir des papiers qui vont pouvoir servir pour l'obtention de leur papier de nationalité, quoi. Pour pouvoir rester sur le territoire, en tout cas. Et donc, du coup, ça aussi, on y travaille avec l'association La Trame. On est en train de réfléchir comment on peut monter un dossier pour avoir ce label, quelque part, OACAS, et développer de l'activité aussi. Et c'est pour ça qu'on a envie de voir un peu. On a parlé de transformation, de produits agricoles, la cantine, on aimerait bien la développer. Enfin, on réfléchit un petit peu à quelle activité on pourrait mettre en place. D'habitude, les Emmaüs, c'est plus sur la recyclerie, mais on se rend compte que nous, dans la vallée, mine de rien, entre dit, créé, il y a quand même beaucoup de choses autour de ça. Donc, le créneau, quelque part, est un peu pris. Donc, on réfléchit à d'autres activités qu'on pourrait mettre en place à Verchigny, à la maison d'Elisa, où on a du terrain, on a aussi du bâtiment qu'on peut transformer. Donc,
C'est vrai que vous avez un terrain qui est grand et qui, pour l'instant, est encore en jachère. Et donc, il pourrait être le support d'une activité agricole ou maraîchère.
Complètement.
Voilà. Alors, finalement, les axes dans lesquels vous travaillez, il y a quoi ? C'est la formation, l'activité en direct.
Il y en a plusieurs. Je crois,
l'accompagnement administratif.
Tout va dépendre aussi de là comment on va mobiliser... Le monde, c'est toujours pareil. Nous, on assure une base. Et puis après, si on peut aller plus loin, eh ben, on va y aller. On va monter la guinguette qu'on va ouvrir au printemps, à l'automne. On va avoir une équipe juridique. On va avoir une équipe qui va s'occuper du jardin et pour qu'il soit puisse donner ses premiers légumes et fruits pour l'année prochaine. Il y a ce dispositif OACAS. On aimerait bien aussi, dans la maison, refaire une cuisine un peu plus fonctionnelle, on va dire, et professionnelle. Il y a vraiment tout un tas de projets. Pourquoi pas relancer la pièce de théâtre qu'on avait lancée. Donc ça aussi, on en a parlé. On a envie, pourquoi pas, de remettre ça en place parce que ça a été vraiment une expérience forte dans l'association. Il y a la formation, on a un site internet, on essaye de communiquer sur les politiques migratoires. On a un infokiosque, c'est-à-dire des brochures, etc., qu'on diffuse dans des événements. Là aussi, l'équipe ne demande qu'à se renforcer. Et c'est pour ça que c'est peut-être le moment d'en parler, qu'on organise un atelier collectif, on veut dire un chantier collectif, le samedi 16 décembre, entre 9h et 17h, à la maison d'Elisa, donc qui est située au 37 route d'Aurel à Verchigny. C'est dans le centre, c'est vraiment vous demander si vous ne trouvez pas, mais c'est une maison qui est route d'Aurel, tout au début de la route d'Aurel quand vous êtes à Verchigny. Et cette journée, ça va être une journée à la fois pour se retrouver, pour faire des choses ensemble, et puis voilà, il va y avoir de la peinture, un peu de plomberie. On va refaire un peu d'électricité aussi, on va aller à la déchette. Enfin bref, il y a tout un tas de choses à faire. Et donc, ce sera l'occasion de se rencontrer et puis d'envisager la suite. Et pour qu'en janvier, on commence à lancer toutes ces activités de manière pérenne.
D'accord, donc le vendredi 16, c'est...
Samedi
16 décembre, c'est en fait une journée de discussion, mais aussi de chantier.
C'est surtout d'action. Et puis, on va finir avec une soirée pizza. On va se faire des pizzas dans le four à pizza de la maison et partager un temps ensemble. Peut-être on fera des jeux, peut-être on dansera, je ne sais pas. Le soir, il n'y a pas de programme vraiment préétabli, mais il se passe toujours plein de choses, de toute façon, à la maison.
Ce sera le moment, disons, de penser des projets, des suites à donner en termes de chantier. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de boulot, quoi.
Mais en tout cas, il y a un outil qui est là. Ce n'est pas si courant d'avoir un habitat qui soit... possédé, on va dire, par une association. Et il y a un outil qui est là et on peut faire plein de choses avec les personnes accueillies. Et nous, de proposer d'être assez nombreux, nombreuses pour faire avancer le Schmilblick.
Donc, en fait, toutes les personnes qui sont intéressées, elles peuvent s'adresser à vous. Est-ce que tu as... Il y a moyen de vous contacter?
Ah bah oui, il y a moyen.
Tu as le numéro de téléphone?
On a un site.
Un site.
Vous tapez Voix Libre Drôme au pluriel, Voix V-O-I-E-S. Vous trouverez le site. Il y a une adresse internet aussi, je pense qu'elle sera mise dans le descriptif de l'émission. Mais c'est voix voies libre libres riseup.net. Donc voilà, vous n'hésitez pas à nous contacter. Puis n'hésitez pas à venir le 16 décembre pour la soirée d'info. Enfin, la soirée, non, pardon. La journée d'action, tu m'as induit en erreur. Voilà, différents moyens de nous contacter. Ouais.
D'accord, ok. On s'achemine vers la fin de cette émission. Peut-être que Zier, tu as peut-être des choses à rajouter. Comment tu vois l'avenir? Je te mets peut-être en difficulté en te posant ces questions. Je suis désolé.
Tant qu'il n'y a pas de résultat de l'asile, franchement, il peut pas savoir si que vraiment l'avenir me réserve.
D'accord. Enfin, ce qui se passe, c'est que quand même, c'est un processus assez long, cette histoire d'asile.
Long, oui.
Parce que là, donc bientôt, tu seras reconnu comme véritable demandeur d'asile. Mmh. 6 mois plus tard, tu auras peut-être la possibilité de demander le droit d'aller travailler.
Bien sûr.
Et en fait, grosso modo, la fin de la procédure, c'est dont on ne connaît pas le terme et le résultat. C'est un an, peut-être plus qu'un an, quoi. Donc, tu as un an devant toi. Donc, c'est vrai qu'à la fois, tu attends, mais à la fois, pendant ce temps-là, il faut continuer à faire et il faut profiter de...
de ce que
tu peux faire ici.
Surtout à la maison, Elisa, Anna, il y a Stéphane qui nous offre des sorties.
Ouais.
Souvent, il y a différentes sorties, des ciné.
Ah oui, d'ailleurs, on est allé à Valence il y a 2 jours.
Il y a 2 jours de celui-là.
Parce qu'on a un partenariat avec un lycée
agricole de Valence.
Le lycée agricole ?
Oui.
Vous avez discuté avec les élèves ?
Et non, il y avait trop les tracks.
Ah bon, d'accord.
C'est vrai que c'était impressionnant, ouais. Il y avait pas mal d'élèves. Non, mais c'était chouette. On a diffusé un film et puis après, on a eu un temps de discussion. Et c'est un partenariat qu'on a depuis 2 ans où on va au lycée. Puis eux, ils viennent après passer une journée. Et la dernière, ils nous avaient refait notre poulailler.
D'accord. Alors, merci Stéphane, merci Zier. Donc là, on s'approche de la fin de notre émission. Donc ça va être un petit peu le turbo, là.
Oui.
Je me tourne vers Geneviève. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments d'actualité propres à la STI?
Alors, il y a des ateliers théâtre qui continuent pour toutes et pour tous en lien étroit avec la compagnie tout court. Dès ce week-end jusqu'à la fin décembre à la MJC du Grand Charan. Il y a le festival Migrants Scène qui est organisé par la CIMAD, donc il y a des projections de films. Il y a une rencontre média citoyenneté du 16 décembre au cours de laquelle sera présenté un film qui a été réalisé à la Toussaint par les jeunes de l'ASTI. Et il y a une journée internationale des migrations le 18 décembre. Mais qui va être regroupé avec la soupe populaire associative le 17 décembre. Donc, on veut, avec d'autres associations, organiser une soupe populaire le dimanche. Voilà.
Très bien. Merci, Geneviève. Est-ce que, pour Voix Libre, est-ce que tu as des choses à dire
Non, je pense qu'on a parlé des rendez-vous le 16. Et puis, effectivement, il va y avoir des rendez-vous qui vont s'acter. A priori, il y a une réunion à Valence bientôt pour parler de... comment on peut agir pour que cette loi ne passe pas. Et donc, il y aura sûrement des rendez-vous qui vont être diffusés. Et j'invite, on est sur Radio Saint-Fé et sur Radio Méga là, en ce moment, mais il y a aussi d'autres médias. Il y a Ricochet, par exemple, ricochets.cc, ce qui est un média libre, participatif, où vous avez un agenda. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour avoir toutes les dates mises à jour.
D'accord. Merci à tous, merci de votre écoute, merci à nos participants et à Radio Saint-Ferréol qui nous accueille, à Voix Libre bien évidemment. Donc cette émission va être diffusée dimanche à 17h sur Radio Méga 99.2, puis ensuite elle sera à podcaster sur le site de radioméga.com. La prochaine émission aura lieu le 5 janvier 2024. On a plusieurs sujets en préparation, notamment Vivre à Fond Barlette, discussion... Peut-être aussi une discussion avec les jeunes qui ont participé à ce film dont on a parlé, Chemin de vie, qui a été réalisé dans le cadre de l'ASTI, l'Union des MJC de la Drôme Ardèche. Et puis évidemment, revenir sur le projet de loi immigration qui est en cours de discussion. Merci à tous et au mois prochain.
Merci Jacques.
Nous sommes des milliers à vouloir comme vous venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler. Mais nous, on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.